Il y a 20 ans, deux jours avant les attentats du 11 septembre, deux faux journalistes kamikazes d'Al-Qaïda interviewaient en Afghanistan le commandant Massoud et déclenchaient une bombe cachée dans une caméra, ça a son importance. Massoud, le dernier commandant qui résistait encore aux talibans dans la région du Panjshir. Un attentat qui a changé le rapport aux médias sur place et également dans le monde. Aujourd'hui, alors que les talibans ont repris le contrôle du pays 20 ans après, le fils du commandant Massoud se prépare à reprendre ou alors à poser les armes là où son père avait laissé ce combat. Qu'est-ce qui a changé en 20 ans? Quel avenir pour les médias en Afghanistan? Réponse avec Salvatore Lombardo. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, journaliste, grand reporter. Vous publiez De Massoud à Massoud 20 ans après. C'est chez Mareuil Éditions. Livre qui raconte vos échanges avec les plus grands leaders du Front National de Résistance contre les talibans. Vous êtes l'un des seuls journalistes français à avoir échangé avec le commandant Massoud avant sa mort. Et dorénavant avec son fils. Tout d'abord, comment ces rencontres se sont-elles faites? Quand les avez-vous connues?
J'ai connu le commandant Massoud à l'époque de la... Excusez-moi, je suis ému parce que je pense encore à sa mort. Là. C'est vraiment terrifiant hier, cette folie de présenter le nouveau gouvernement taliban le jour même où on célèbre la mort du commandant Massoud. Bon, j'ai connu le commandant Massoud réellement, je l'avais connu comme simple grand reporter à l'époque des Russes, mais il recevait tellement de journalistes, il n'avait pas fait attention à moi.
Petite insiste pour dire aux plus jeunes qu'avant les Américains, c'était les Russes qui s'étaient installés en Afghanistan.
Exactement. Et donc, il se battait contre les Russes. Beaucoup de journalistes occidentaux, notamment français et italiens à cette époque, moi je couvrais ça pour le quotidien italien La République. Et donc, je l'avais rencontré comme ça. Quelques années plus tard, en 2000, je publie un livre qui s'appelle « Lettres à Massoud ». Que mon éditeur ne voulait pas sortir. Mais comme j'avais eu un succès littéraire juste avant, il a dit « Bon, je te fais cadeau de ce petit livre pour ton chéri, qui est un has-been complet, le commandant Massoud ». L'ambassadeur d'Afghanistan a vu ce livre à l'aéroport, il a ramené ce livre avec lui dans le Panjshir, et quelques jours plus tard, on m'appelle, mon éditeur m'appelle, il me dit « il faut que tu appelles l'ambassade, Massoud veut te voir ». Je dis « mais c'est pas possible ». J'appelle l'ambassade, et moins d'une semaine plus tard, j'étais dans le Panjshir aux côtés du commandant Massoud.
Vous êtes resté en contact avec la famille ?
Régulier durant toutes ces années. J'étais aux obsèques du commandant. C'est là que j'ai connu son fils, qui avait 12 ans à l'époque, Ahmad. Une rencontre très, très émouvante, parce qu'il fallait traverser le stade de Kaboul, un stade qui est tristement célèbre, puisque c'est là que les femmes étaient lapidées par les talibans.
Mais public.
En public.
Gradin rempli,
et il faut le préciser, c'est important. Mais ce jour-là, les gradins étaient remplis de moujahidines, 35 000 moujahidines qui venaient rendre hommage à leur chef, décédé quelques semaines auparavant. Il fallait franchir donc cette marée de moujahidines qui avait envahi aussi le terrain lui-même et remonter sur l'autre tribune et là aller saluer le fils du commandant. Avec moi, j'avais le bras droit militaire du commandant Massoud, le commandant Daoud. C'est lui d'ailleurs qui a repris Kaboul, qui a repris Mazar-i-Sharif, qui a repris Kunduz. Toutes les grandes villes afghanes n'ont pas été reprises par les Américains, mais par les Moudjahidines de Massoud, avec l'appui de l'aviation américaine et de l'aviation française. Donc je monte, je salue ce gamin, et puis je ne sais pas pourquoi, il me vient des larmes. Voilà, je suis pas quelqu'un. Bon, je suis assez émotif, mais de là à pleurer, bon, on en a vu d'autres.
Oui, normalement, les grands reporters, voilà. Ça a le cuir tanné.
Mais j'avais des relations tellement particulières avec le commandant Massoud, et de voir son fils avec un courage, avec un charisme, à 12 ans, je me suis dit, c'est pas possible. Et alors là, il me prend la main, il ne me connaissait pas, il me prend la main, le commandant Daoud fait la traduction, et je lui dis, mais qu'est-ce qu'il me dit? Il te dit que tu n'as pas le droit de pleurer. Je lui dis, mais pourquoi? Parce qu'il te regarde. Les 35 000 moudjahidines nous regardaient. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit. Voilà l'entrée en matière de mes relations avec Ahmad Massoud.
On est ici une émission média. Pardon de revenir sur cet événement qui peut-être va vous émouvoir encore. Racontez ce qui s'est passé. Comment le commandant Massoud a-t-il été piégé par une fausse équipe de télévision?
Alors, là aussi, c'est assez terrible de rappeler ça, parce que les assassins du commandant Massoud sont deux Tunisiens du parti Ennahda qui ensuite ont pris le pouvoir en Tunisie. Vous imaginez, on a chassé Ben Ali pour mettre bien pire, à savoir les islamistes d'Ennahda, les frères d'armes de Ben Laden et d'Al-Qaïda. C'est quelque chose d'absolument ahurissant. Mais pour en revenir à ces deux Tunisiens, il faut savoir qu'il y a quelque chose de très trouble. Encore aujourd'hui, on se pose la question, parce que Massoud ne les sentait pas. C'est quelqu'un qui marchait au feeling. Et donc, ces gens-là étaient là depuis plusieurs jours. Ils étaient passés par Kaboul. Ils trouvaient ça étrange, parce que par Kaboul, ça voulait dire que les talibans leur avaient permis d'arriver jusque-là. Ils se présentaient comme des journalistes français de France 3. Ils avaient d'ailleurs la caméra de France 3 qu'ils avaient piqué quelque temps auparavant un journaliste à Grenoble. Voilà, ils ne sentaient pas ça. Et puis, dans son entourage, il y a des gens qui ont fait pression pour qu'il reçoive ces journalistes. Et il disait non. Et puis finalement, le jour de son départ, le ciel est très bas, l'hélico ne peut pas décoller dans l'immédiat, et donc on revient à la charge, je dis, mais ils sont là, ça fait quand même presque 10 jours qu'ils attendent, essaie de les recevoir. Bon, ok. Il les reçoit, et là, au moment d'installer la caméra, ils font sauter la caméra qui était piégée. Et ironie du destin, encore une fois, ironie terrifiante du destin, c'est que, aux côtés du commandant Massoud, deux fidèles à lui étaient présents, et notamment un collègue à nous, un grand reporter, Farim Dashti, qui viennent de mourir dans la bataille pour la conquête par les talibans du Panjshir. Voilà, c'est donc il avait survécu à ses blessures aux côtés de Massoud en 2001, et là il vient de décéder 20 ans plus tard en défendant le Panjshir.
Un des caméramans, si je me souviens bien, enfin un des deux vrais faux journalistes est mort dans l'attentat, complètement broyé, restait plus que ses jambes. L'autre a pu s'enfuir. Est-ce qu'on l'a retrouvé depuis?
Théoriquement, il est mort lui aussi, puisque les gardes de Massoud, de Zazara, l'ont poursuivi, l'ont criblé de balles. Voilà, ça c'est ce que me disent mes amis afghans. De notre côté, à l'époque, en Tunisie, on me disait qu'il s'était échappé et que peut-être on allait le retrouver en France ou en Belgique, parce qu'il avait des bases en Belgique aussi.
C'était le sens de ma question. Qu'est-ce que ça change dans le rapport aux médias de cette région du monde et même du monde entier? Est-ce que les journalistes sont moins libres qu'auparavant pour faire leur travail? On en parle avec Salvatore Lombardo, pardon, de Massoud à Massoud, 20 ans après. Culture Média continue. Philippe. Avec Salvatore Lombardo, journaliste, grand reporter de Massoud à Massoud, 20 ans après. C'est le livre qu'il signe chez Mareuil Édition. Il y a le fils en couverture et le père en filigrane. Le père assassiné il y a 20 ans, à deux jours près, par une équipe de vrais faux journalistes et une caméra piégée. Qu'est-ce que cela a changé dans le rapport avec les médias là-bas en Afghanistan?
La première chose, c'est que les gens, dès qu'ils louent une caméra, ils pensent à ça. Immanquablement, ils pensent à ça. Et je ne pense pas seulement aux forces de sécurité. C'est la population ne peut pas voir une caméra sans avoir un mouvement de recul. Ça, c'est la première chose. Donc, ça, c'est compliqué pour nos collègues de la télévision, des télévisions, qu'il s'agisse de télévision afghane comme de télévision étrangère. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les médias ont pris beaucoup plus d'importance qu'auparavant en Afghanistan. Le pays, en 20 ans, quoi qu'on puisse dire, s'est énormément modernisé.
Mais déjà, il y a quelque chose qui n'existait pas auparavant, c'est Internet et les réseaux sociaux.
Au moins, les Américains ont amené ça. Une qualité de communication, une facilité de communication remarquable. Moi, j'habite dans le Massif central, un petit hameau perdu, et j'ai du mal à faire passer mes communications de portable, alors qu'en Afghanistan, au fin fond du Panjshir, avec mon portable, ça passe très bien.
La 4G passe mieux dans le Panjshir que dans le Cantal.
Exactement, c'est que dans l'autre loi.
Ouais.
Voilà. Mais pour en revenir à ça, dont les médias ont pris énormément d'importance, les gens accordent l'importance à ce que leurs journalistes, je parle des Afghans, là, peuvent écrire ou peuvent raconter sur les radios ou sur les télévisions. Les talibans ne s'y sont pas trompés, parce que la première chose qu'ils ont fait, ou plutôt la deuxième chose qu'ils ont fait, la première chose, ça a été de fermer tous les campus universitaires, et la deuxième chose, ça a été de mettre la main sur tous les médias. Et on voit apparaître d'ailleurs des collègues à nous, présentateurs de radio, présentateurs de journaux télévisés, avec des hommes armés derrière eux. Voilà ce que ça a pu changer. Mais les journalistes résistent aussi. On a vu hier encore les images de ces deux journalistes afghans bastonnés, mais de manière assez terrible, assez terrifiante, parce qu'on voit les effets sur leur corps et puis sur leur esprit, on imagine, par des talibans.
Et qui ont eu le courage de se montrer à visage découvert tout en montrant leurs blessures, ce qui est presque aussi pour eux une prise de risque.
C'est pas presque, c'est carrément une prise de risque, parce que je pense que ça va pas rester impuni, ça aussi. Hein. C'est des gens qui sont extrêmement rancuniers pour les avoir côtoyés. Je sais qu'il ne faut absolument pas se fier aux mensonges éhontés des talibans.
Les médias font irruption dans ce conflit, comme partout. Vous racontez dans votre livre que le Front National de Résistance, c'est-à-dire les hommes de Massoud contre les talibans, avaient envoyé un ambassadeur officieux à Paris, dont le rôle était de faire du lobbying, notamment auprès des journalistes. Ça fonctionnait comment ?
Écoutez, il essayait de contacter le maximum de journalistes en parlant. La première chose dont il parlait, c'était de Massoud, parce que ça fascinait les gens. Moi, c'est comme ça qu'il m'a contacté. Mmh. Il m'a dit, je suis l'envoyé spécial du commandant Massoud, ça vous intéresse qu'on en parle ? Ben évidemment que ça m'intéresse. Voilà, ça s'est passé comme ça, c'était quelqu'un de c'est toujours quelqu'un, il est au Canada maintenant en poste, mais c'était quelqu'un de très habile, très intelligent, très diplomate, et en même temps très au fait des demandes des différents journalistes. Il a organisé beaucoup de rencontres avec des collègues journalistes français ou européens, avec le commandant Massoud dans le Panthéon.
Alors, ce qui est vraiment frappant à la lecture de votre livre, c'est que vous nous remémorez ou vous nous apprenez qu'à l'époque, avant la mort de Massoud, il n'était pas très très bien vu. La position des médias français peu interrogée, notamment celle du journal Le Monde, vous écrivez ces pages 34. La correspondante ne va cesser de dénigrer l'Alliance du Nord et son chef Massoud, tout en ménageant sans remords l'État taliban et ses patrons. Vraiment ?
Oui, vraiment. C'était ça faisait mal à Massoud. Ça faisait mal à Massoud. Non pas qu'elle le critique, non pas qu'elle prenne des prises de position qui étaient, d'après lui, absolument pas conformes à la culture française, culture qu'il avait fait sienne, n'oublions pas. Il a été élevé au lycée français Esteghlal de Kaboul, il parlait un français assez correct, avec un très fort accent, mais on s'exprimait en français. Il aimait la littérature française, il aimait les journalistes français, il adorait dialoguer avec eux.
Mais moi, ce qui m'intéresse en émission média, comment se fait-il que Le Monde, la correspondante du Monde dont vous donnez le nom, Françoise Chipot, prenne position contre Massoud pour les talibans.
Écoutez, je me suis posé la question, je lui ai posé la question d'ailleurs. Sa réponse est simple, tu es trop engagé aux côtés du commandant Massoud pour avoir suffisamment de recul. Moi, j'ai suffisamment de recul. Je lui ai dit, oui, tu as du recul depuis le Pakistan, mais tu as pas du recul depuis Paris pour considérer le Panthéon comme la citadelle d'un combat métaphysique pour nos libertés, pas seulement celles de l'Afghanistan, mais nos libertés à nous.
Elle nous écoute peut-être, elle travaille toujours pour le journal Le Monde ?
À ma connaissance, non. Elle a quitté ce journal maintenant. Je la salue si elle nous écoute, puisqu'elle m'avait dédié quelques jours après une rencontre mémorable à Kaboul un très bel article. Il faut dire que les Moudjahidines l'avaient reconnue. Ils avaient appris qui elle était et ils voulaient carrément la défenestrer du bureau de Abdullah Abdullah, le ministre des Affaires étrangères de Massoud.
Les réseaux sociaux, comment ça va se passer maintenant ? Est-ce que vous avez des nouvelles de ce qui se passe en ce moment à Kaboul ? Et après, je demanderai des nouvelles du fils Massoud.
Alors, pour l'instant, les réseaux sociaux fonctionnent encore. Ils ne sont pas parvenus, les talibans n'ont peut-être pas encore pris conscience de la nécessité pour eux d'essayer de couper au maximum les communications via les réseaux sociaux.
Et les médias, on a vu cette image terrifiante de cette présentatrice remplacée le lendemain en lieu et place de son studio par un barbu avec un turban.
La mainmise sur les médias audiovisuels est totale. Voilà. Il n'y a plus aucune possibilité de liberté. Les talibans se sont empressés de mettre la main sur les principaux médias audiovisuels. La presse écrite, de toute façon, elle est interdite. Donc, voilà, il n'y a pas d'alternative possible. Aujourd'hui, c'est silence, on tue.
Quelle nouvelle du fils du commandant Massoud avez-vous ? Il annonçait il y a quelques jours qu'il serait prêt à faire la paix avec les talibans pour parvenir à une paix durable dans le Panthéon et l'Inde d'Arabe. C'est un renoncement total ?
C'est pas du tout un renoncement total. Son père avait déjà engagé un dialogue qu'il espérait constructif en 1999 et en 2000 avec les talibans, qui avaient refusé de manière hautaine en disant « on va vous écraser, donc c'est pas la peine, Dieu est avec nous et vous êtes un impie à Massoud ».
La dernière fois que vous l'avez eu au téléphone, je vais vite parce qu'il ne nous reste plus que quelques secondes, il vous disait quoi ?
Il y a 3 jours et il me disait qu'il venait de quitter à nouveau le Tadjikistan, parce qu'à un moment il s'est réfugié au Tadjikistan pour pouvoir négocier aussi justement avec des représentants des diplomaties occidentales. Voilà, parce qu'il y a des discussions qui se poursuivent. Je ne peux pas en dire plus, mais on imagine. Et il voulait aussi réorganiser son approvisionnement en munitions, en carburant. Là, il est rentré en Afghanistan et il a échangé son vêtement traditionnel pour le vêtement de combat. Il est en première ligne avec ses commandants pour organiser la défense, comme le faisait son père à l'époque, depuis les vertigineux défilés du Panjshir.
Merci beaucoup Salvatore Lombardo, témoignage précieux. Je rappelle que vous êtes l'auteur de l'ouvrage Massoud à Massoud, 20 ans après, aux éditions Mareuil, disponible en librairie. Et pour info, Society, le magazine, 11 septembre 2001, numéro spécial, le jour qui a changé le monde. Et justement, il y a aussi un sujet Massoud de père en fils. Merci d'avoir été avec nous en direct dans Culture Média.